cette possibilité de réunion ou de division qui appartient à la notion de flux, elle dépend de quoi? Sur les trois flux du flux de ma vie intérieure. C'est mon monologue intérieur qui tantôt réunit les trois flux, y compris lui-même, tantôt divise les trois flux en saisissant les deux autres comme extérieurs à ma vie intérieure, à ma durée. Il y a un curieux, là, c'est une espèce de cogito de la durée, qui s'exprimerait non plus sous la forme je pense, mais je dure, c'est-à-dire, tantôt je réunis et tantôt je sépare les flux dans une même durée. En d'autres termes, c'est par l'intermédiaire de ma conscience que j'ai le pouvoir de saisir tantôt les flux comme un et tantôt comme plusieurs. Pourquoi j'introduis ça? Parce que là, alors, on a la formule complète. Si ma durée, c'est cette capacité de se diviser, de se subdiviser en flux, ou de réunir les flux en un, vous voyez bien comment ma conscience est comme l'élément actif qui fait communiquer les trois niveaux de ce que j'appelle provisoirement de l'image. Rappelez-vous, les trois niveaux d'image, c'est, encore une fois, les objets pris dans des ensembles, c'est-à-dire dans des systèmes artificiellement clos. Le tout, d'autre part, à l'autre extrémité, le tout comme durée, comme changement, comme perturbation. Puisque le tout ne peut se définir en fonction de perturbation. Le tout est fondamentalement partage. Le tout est fondamentalement changement de tension. Et justement, un changement de tension, c'est pas localisable. Un changement de tension, une différence de potentiel, c'est pas localisable. C'est localisable, c'est les deux termes entre les deux, la différence est là. Mais la différence même concerne un tout. Le tout marche par différence. Il fonctionne par différence. Donc, le tout, c'est-à-dire l'ouvert, le changeant, la durée. Le mouvement, troisièmement, ou plutôt deuxièmement, entre les deux, le mouvement dans l'espace. Le mouvement de translation. Je dis que le mouvement de translation rapporte les objets à la durée et rapporte la durée aux objets. Quand les objets se rapportent à la durée, c'est comme si les flux se réunissaient en un. Quand la durée, le tout se rapporte aux objets, c'est comme si au contraire la durée se divisait en sous-durée, se divisait en flux distincts. Et vous avez le mouvement perpétuel par lequel les flux divisent et par lequel les flux se réunissent. En d'autres termes, c'est comme ma conscience, au sens le plus psychologique qui soit, c'est ma conscience psychologique qui assure la ventilation du trajet. Si bien que je peux dire maintenant, et c'est pas par hasard, c'est que quand même que je disais, le vivant a une affinité avec le tout, à plus forte raison. Les systèmes psychiques ont une affinité avec le tout. Si bien que la limite même, d'une espèce de manière progressive, serait ça. Je pourrais composer les vivants, la plus forte raison, les êtres psychiques, je pourrais les composer entre eux jusqu'à ce que j'arrive à une seule et même durée qui sera le tout avec un grand vie. En tout cas, pour le moment, on a juste commenté cette troisième thèse de l'être. À savoir, non seulement l'instant est une coupe immobile du mouvement, mais le mouvement est une coupe mobile de la durée. C'est ce qui reprend l'ensemble, puisque le mouvement est une coupe mobile de la durée, oui, parce que il rapporte les objets isolés ou isolables à la durée fonctionnant comme tout, il rapporte la durée fonctionnant comme tout aux objets. dans lesquels la durée va se diviser en sous-durée. Alors, ce que je voudrais dire avant que vous vous reposiez, c'est, bon, ben, qu'est-ce qui nous va dire ? Ben, évidemment, ça suppose que vous ayez suivi le... Mais je crois que c'était pas trop difficile. Ce qui nous reste, c'est maintenant poser une question, alors un peu, on prend un peu d'écart vis-à-vis de personne, à savoir, bon, ben, est-ce que tout ça, ça a des conséquences ? Je schématise mon changement de plan, est-ce que ça a des conséquences pour le cinéma, pour l'image ? C'est presque l'épreuve de ce sujet tel que je voudrais le traiter cette année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire qu'il s'agirait de se demander. Mais on ne peut pas se demander s'il n'y a pas déjà une évidence que ça marche. Alors ça dépend de vous, tout ça. La question que je me pose, c'est, supposons que l'image de cinéma soit l'image mouvement. S'il convient d'appeler image mouvement, est-ce que ce n'est pas cette image constituée par les trois niveaux qu'on vient de voir ? Des objets, des mouvements, un tout ou une durée. Et l'image mouvement consisterait exactement en ceci, elle rapporte les objets. Le mouvement rapporte les objets à la durée et sous-divise la durée en autant de sous-durées qu'il y a d'objets. Donc, communication entre les deux. Est-ce qu'il y a ça? Essayons de situer là des concepts, des très gros concepts cinématographiques. Qu'est-ce qu'on appelle un cadrage ? Ce serait déjà profitable si on arrivait à des définitions très simples. Hein. Les définitions elles sont toujours beaucoup trop compliquées. Qu'est-ce que c'est l'opération de cadrer le cinéma ? Je dirais... Bah, c'est très simple, cadrer, c'est constituer un système artificiellement clos. En d'autres termes, cadrer, c'est choisir et déterminer les objets et êtres qui vont entrer dans le plan. On ne peut pas encore se préparer. Les objets qui vont entrer dans le plan sont déterminés par le cadrage et méritent dès lors, en tant qu'ils appartiennent déjà pleinement au cinéma, un nom spécial. On peut les appeler, par exemple, Pasolini propose le nom de cinème. C-I-N-E-N-E. J'ai dit, ben oui, les objets qui font partie d'un plan, appelons-les cinèmes. Cinèmes, c'est peut-être dangereux. Vous sentez que la linguistique n'est pas loin, c'est-à-dire qu'il veut faire un truc, qu'il veut déjà introduire un parallèle. Alors nous, il faudrait se méfier de cinèmes. Alors n'importe quoi, vous pouvez les appeler kinot-objets, les kinot-objets, hein, vous pouvez les appeler n'importe quoi. Les objets cinéma. C'est le cadrage qui les détermine. Voilà. Et il n'y a aucun inconvénient à dire, ben oui, le cadre, c'est un système, c'est l'établissement d'un système artificiellement clos, dont il en a besoin. Déjà, à ce moment-là, tout peut rater ou pas, si on va voir. Deuxième chose, deuxième niveau. Un mouvement relatif s'établit entre ces objets. Vous me direz, j'entends bien que le deuxième niveau, c'est, je fais de l'abstraction. Il n'y a pas d'abord ceci. Mais sans doute, les objets n'ont été choisis qu'en fonction de ce mouvement. Bon. mais la détermination du mouvement relatif entre les objets. La détermination du mouvement, et qu'est-ce qu'il fait dire du mouvement relatif, mais en fait, il y a plusieurs mouvements. Alors, ajoutons, la détermination du mouvement relatif composé entre ces mouvements, qui s'établit entre les mouvements, qui est à justifier plus tard, je dirais, c'est ce que j'appelle un plan. Au moins, ça a l'avantage, dans cette boum des définitions du plan, d'introduire une proposition de définition du plan. Elle soulève toutes sortes de difficultés, je le dis tout de suite, mais on ne peut pas en rendre compte que tout à l'heure. Enfin, supposons, pour le moment, on changera tout si ça marche pas, hein. Mais supposons pas de point de repère comme guide. Je propose comme définition du plan, donc la détermination du mouvement relatif composé entre les objets. Eux ont été déterminés par le cadrage. Au plan correspond, si vous voulez, comme axe, qui le chef d'œuvre, le découpage. Qu'est-ce que c'est découper le cinéma? Eh bien, découper, c'est déterminer le mouvement complexe relatif. Qui réunira les objets cadrés et divisera entre les objets cadrés de telle manière que quoi? Sans doute, il faudra ajouter un de telle manière que quelque chose. Bon, aussi un troisièmement. Mais alors, découper un roman, par exemple, découper un roman dans un scénario, c'est quoi? Je crois que c'est exactement découper, ça veut dire là, c'est très simple, c'est une opération très, très simple, très difficile à faire, à savoir choisir les mouvements complexes qui vont correspondre à un plan et puis à un autre plan. Je dis de telle manière que quoi? Eh bien, il faut choisir le mouvement relatif complexe qui constitue le plan, de telle manière qu'il rapporte l'ensemble des objets cadrés à quoi? À un tout, c'est-à-dire à une durée. Un tout, c'est-à-dire à une durée. Ah bon, parce que le cinéma s'occuperait fondamentalement de la durée au sens bergsonien, peut-être, on ne sait pas encore, mais enfin. Mais la manière dont le mouvement relatif composé entre les objets, c'est-à-dire un plan, se rapporte par son mouvement au tout, implique et passe par le rapport de ce plan avec l'autre plan. Si bien que, ce troisième niveau comme concept cinématographique, à savoir le rapport du plan avec un tout que le mouvement dans l'espace présent dans le plan est censé exprimer, renvoie exactement au concept de montage. On aurait donc déjà trois concepts cinématographiques. Qui répondrait, en somme, je fais rien, là, je fais que, j'essaie ce qui m'en irait, c'est que ça a l'air d'une application, c'était de l'autre côté, il n'y a pas quelqu'un qui s'appuie sur quelque chose, non, vous comprenez, je ne voudrais pas que ça ait l'air d'une application, il faudrait, c'est autre chose dans mon esprit. Voilà, alors si ça fait des applications, c'est pour... Je vois quelqu'un qui a dit ça très bien, qui est le plus proche de ce que j'essaie de... C'est, je viens de le citer, c'est Pasolini. Pasolini, ce qui compromet tout, c'est la manière, mais c'est pas la seule fois, c'est la manière dont la linguistique frappe partout, dont on frappe par là, et c'est terrible. Quand la linguistique frappe, plus rien ne repousse. Alors, c'est simple. Lui, il est tellement obsédé par son histoire de linguistique et d'application de la linguistique au cinéma que la pureté de ses schémas en est compromise. Mais si j'essaie, la pensée de Pasolini, elle est très complexe. Si j'essaie d'en extraire un aspect, je ne prétends pas vous donner le tout de la pensée de Pasolini. qui serait sensible à une espèce de division tripartite de l'image. Ou, Pasolini nous dit, ben voilà, je vous propose de distinguer dans l'image de cinéma les cinèmes, le plan et le plan séquence idéal. Alors, il dit on peut comprendre le cinéma qu'à partir de ces trois concepts. Eh bien, il se croit linguiste, en fait il est d'être bien. Il n'y a pas de honte, c'est même mieux. Parce que, prenons mot à mot, comment il conçoit. Un pôle des cinèmes, c'est relativement simple. Encore une fois, c'est la détermination des objets. Ils entrent dans un plan, et ils sont déterminés par le cadrage. C'est ça qu'il propose d'appeler cinéma. Alors, là où ça tourne, enfin, d'une manière qui ne peut pas nous convenir pour le moment, on aura à voir tout ce problème cinéma-langage, mais enfin, c'est un problème où on a trop parlé, il faut arrêter sur ce point. Il faut laisser les choses se reposer. Parce que lui, son idée, c'est que, une fois dit que certains linguistes ont découvert qu'il y aurait peut-être un phénomène dit de double articulation dans le langage, il veut trouver l'équivalent d'une double articulation dans l'image de cinéma. Alors il dit la première articulation, ce serait le plan, et la seconde articulation, ce serait les cinèmes. Si bien qu'il devrait écrire plan sur cinéma égale équivalent de moi-même en linguistique sur moi-même. Bon, ça, c'est assez, je le dis pour le moment, en tout cas, du point de vue où nous en sommes, ça nous intéresse pas. En vous, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le premier aspect de l'image, les objets, déterminés par le cadre, égal cinéma. Troisième aspect. Il dit, et là, tous les cinéastes ont toujours dit ça, je pense à des Eisenstein, qui sont aussi tellement frappants à ce cadre, finalement, un film, ça vaut rien s'il n'y a pas un tout. La notion de totalité aussi. Là-dessus, si les cinéastes se distinguent, si les grands metteurs en scène se distinguent, c'est qu'ils n'ont vraiment pas la même manière d'actualiser le tout, ni de le concevoir, ni de l'actualiser. Mais l'idée de tous, c'est qu'il y a toujours une totalité, qu'il est fait qu'un avec le film. Et qu'il y a un rapport variable avec les images, mais qui ne tient jamais en une image. D'où toute une école. C'est la totalité, c'est l'acte du montage. Donc il y a un tout. Supposons qu'il y a un tout. Ce tout, on peut même le concevoir comme le tout absolu, le tout universel. Qu'est-ce que Pasolini appelle l'enséquence idéale? Plan séquence idéale, et il dit finalement ce plan séquence idéale, vous savez, c'est quoi? C'est la continuité cinématographique. Par opposition à quoi? Par opposition à la réalité du film. Vous voyez, la continuité cinématographique, en effet, ce qui existe, c'est des films. La continuité cinématographique à travers les films, elle est par nature idéale. Pourquoi est-ce que c'est idéal le plan séquence au sens de Pasolini? On verra, ça posera toutes sortes de problèmes. En effet, comme dit Pasolini, il ne croit pas au plan séquence. Il n'en fait pas. Bon, il ne fait pas plan séquence au sens technique, qu'on n'a pas encore vu. Mais, vous savez, le bureau est beaucoup... pas du tout dans le sens de la recherche du plan séquence. Et pourquoi il n'est pas la recherche du plan séquence? C'est parce que pour lui, le plan séquence ne se confond qu'avec l'idéal cinématographique, à savoir une continuité infinie, et s'exprime comme ça, et une durée infinie. Continuité et durée infinie de la réalité. Là, on ne peut pas parler en termes plus bergsoniens. si bien que il dit, bah, oui. Le plan séquence, s'il existait, bah, il n'aurait pas de fin. Ce serait l'ensemble, ce serait la totalité du cinéma à travers tous les films. Ce serait la reproduction de la continuité de l'infinité du réel. Si bien qu'il est purement idéal. Alors ce qu'il reproche, vous voyez ce qu'il reproche au cinéaste du plan séquence. Ce qu'il reproche aux cinéastes du plan séquence, qui ont fait des plans séquences, c'est d'avoir cru que le plan séquence était actualisable comme tel. Alors qu'il indique une continuité idéale. Une continuité idéale égale à tout le cinéma. Et il dit, lorsqu'on essaie d'actualiser le plan séquence en faisant un plan séquence réel, qu'est-ce qu'on tombe là, c'est très curieux, il dit, là, ça c'est béni, ça pense que c'est manifestement faux. Et ça lui est utile de dire, on fait du naturalisme. Quand on essaie de réaliser un plan séquence, le plan séquence est idéal. Il dit d'accord. Mais justement, c'est tellement un idéal, c'est tellement la continuité idéale. Et l'infinité de cette continuité idéale que vous pourrez jamais le réaliser. Si vous essayez de réaliser un plan séquence, vous tombez dans du plat naturalisme. Alors peu importe si c'est juste cette critique, mais il a besoin de dire ça, parce que c'est son idée. C'est que le plan séquence idéal, il ne pourra pas être réalisé par des plans séquences, il ne pourra être réalisé que par des plans. Que par des plans tout court, renvoyant les uns aux autres par l'intermédiaire d'un montage. En d'autres termes, c'est le montage de plan, et non pas le plan séquentiel, c'est le montage de plan qui est seul capable de réaliser le plan séquence idéal. Alors on voit bien ce qu'il veut dire. Il a donc ces trois niveaux d'image. Les cinèmes, c'est-à-dire les objets reçus déterminés par le cadre. Le plan mobile. Le montage par lequel chaque plan et l'ensemble des plans renvoient au tout, c'est-à-dire au plan séquence idéal. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il a un texte qui va être très intéressant. Il dit, oui, le plan séquence idéal, c'est une continuité analytique. C'est la continuité analytique du cinéma à travers tous les films. Or, on ne peut pas le réaliser. Tous les efforts pour réaliser ça directement tombent dans le naturalisme et engendrent l'ennui. Et là, il a des choses dans la tête. C'est tous les effets, oui, de se lancer quand ça finit, du poirole. Alors, bon. En fait, la continuité analytique idéale du cinéma à travers tous les films ne peut être réalisée que sous une forme synthétique, c'est-à-dire synthèse de plan opéré par le montage. Si bien que la continuité d'un tout dans un film est fondamentalement synthétique. Alors que la continuité du cinéma à travers tous les films est un pur idéal. C'est un pur idéal analytique. Alors, vous voyez en quel sens je peux dire, dans une telle distinction, opérant dans l'image. Et il faut dire oui. Vous avez les objets découpés par le cadrage. Vous avez le mouvement composé, relatif aux objets, constitutif du plan. Et le mouvement relatif rapporte les même à l'irisoption. Au tout, lequel tout se divise en autant de sous-durées qu'il y a d'objets, lesquels objets se réunissent en une seule et même durée qui est celle du tout. Donc votre trinité, cadrage, plan ou découpage, montage, traduirait ces trois aspects de l'image. Et en ce sens, on pourrait dire, oui, l'image-mouvement, voilà. Mais du coup, on apprendrait que toute image n'est pas comme ça. Mais non, c'est ça qu'on est en train de découvrir. On s'est installé dans une image qui est peut-être un type d'image très spécial. C'est-à-dire qui est un type d'image proprement cinématographique et qui n'est peut-être pas le tout des images cinématographiques. Qui est peut-être même une espèce, un cas spécial d'image cinématographique. L'image-mouvement, ce serait quoi? Ce serait l'image telle qu'on vient de la définir depuis. Ce qu'il faudrait appeler l'image mouvement, ce serait une image telle que le mouvement y exprimerait de la durée, c'est-à-dire un changement dans le tout. En d'autres termes, où le plan serait une coupe mobile de la durée. Et étant une coupe mobile de la durée, comprenez bien, étant une coupe mobile de la durée, il rapporterait les objets déterminés par le cadre, il rapporterait ces objets déterminés par le cadre au tout sûr, et il rapporterait le tout sûr aux objets. Et c'est ça donc que nous pourrions appeler image mouvement, avec des problèmes, toutes sortes de problèmes, mais toutes sortes de problèmes qui surviendraient, à savoir, est-ce que c'est propre au cinéma? Tout de suite, il semble que oui, mais il faudrait le montrer. Toute autre question, est-ce que c'est le seul type d'image propre au cinéma? Réponse de toute évidence, non. Il y aurait d'autres choses que des images mouvement au cinéma. Bon. Mais là, au point où on en est, c'est là qu'il va falloir invoquer alors des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire que dans l'image mouvement cinématographique, le mouvement exprime de la durée, c'est-à-dire le mouvement dans l'espace exprime une affection du tout, un changement ou une affection du tout. Voilà. On se repose, hein, vous vous reposez. Je reprends dans 10 minutes, un quart d'heure. Je sens votre fatigue légitime. Voilà. Je vais vous donner des exercices pratiques après. Toute une série d'exercices pratiques. Donc, nous disposons maintenant d'une formule développée. La formule développée de l'image mouvement. L'image mouvement, c'est l'image d'un mouvement de translation qui rapporte des objets déterminés, sous-entendu par le cadrage, à un tout, et qui rapporte ce tout aux objets dans lesquels il se divise des nombres. Voyez, en ce sens, le mouvement de translation traduit un changement comme affection d'un tout. Voilà. Alors, on pourrait presque rêver d'une série où il faudrait rêver d'une chose, je ne pense pas l'inventer, une chose au contraire, une chose où les exemples cinématographiques joueraient exactement, si vous voulez, un rôle, le même rôle que les exemples musicaux quand on parle de musique. Alors, il y aurait une suite d'exemples. J'aligne très vite une suite d'exemples et de problèmes et l'on reprendra là la prochaine. Sur cette formule développée, donc objet, mouvement relatif entre les objets, tout, un tout ou une durée, je me dis, faudrait chercher comme des plans, puisque c'est le plan qui expose le mouvement qui rapporte les objets au tout et tout aux objets. Mais il faudrait chercher une série de plans où cela apparaît très clairement à des niveaux différents. Je me dis, un mouvement de translation qui exprime une durée. Je vois, là, vous pourriez, ce serait à chacun de vous, de Je cite comme au hasard, c'est pas des... Je vois un film de Wyler, de William, on dit, hein, William Wyler, Lost Weekend, où il y a... C'est pas Billy, non, oui, c'est pas Billy. C'est Billy. Ah bon, vous voyez mon premier exemple, mais vous connaissez vous-même, tous mes exemples sont faux. D'ailleurs, peut-être que le plan n'est pas, peut-être, je crois que ça arrive tout le temps, hein. Je ne serai pas le seul. Alors bon, le film, vous dites que c'est Lost Weekend. Vous êtes sûr? C'est sûr? Où t'as vu ça? Bon, enfin, dans ce film, vous avez une promenade. Bon, tout comme on dit, la poursuite, c'est très important au cinéma, la poursuite. Alors, je suis pas sûr, parce que la poursuite, c'est pas tellement un bon cas, justement. La poursuite, c'est bien un mouvement de translation dans l'espace, mais c'est pas évident, la durée qu'il exprime. Hein. Peut-être, mais enfin, la promenade, c'est beaucoup plus... Pour ce qui nous occupe, c'est très très intéressant, la promenade au cinéma. C'est la promenade de l'alcoolique dans la ville. La promenade de l'alcoolique dans la ville, c'est un thème commun à la littérature et au cinéma. Il y a des pages inoubliables de Fitzgerald là-dessus. Bon. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. C'est Rémy Land, là je suis sûr de l'acteur au moins, qui se balade là. Et c'est vraiment, comme on dit, il court à sa perte. C'est que l'expression « il court à sa perte », comparer l'expression « il court à sa perte », bon, et puis, quand c'est des images, c'est quoi ? Ben, il s'agit que le déplacement dans l'espace exprime véritablement cette durée de la dégradation, cette durée de la décomposition. Que le mouvement dans l'espace exprime un changement comme la fiction d'être. Il semble que la promenade là, du personnage dans la ville, la promenade de l'alcoolique, est un très très bon cas. Mais un cinéaste plus actuel et qui lui, il me semble, c'est Vanitas. Si vous prenez ou de faire passer le tout d'un moment où les deux sont séparés à un autre moment où les deux vont être à nouveau séparés. Bon, donc dans cette voie, il semble qu'il y aurait beaucoup de choses à... Autre cas, non plus le mouvement exprime une durée, mais le mouvement dans l'espace rapporte un ensemble d'objets artificiellement découpés à une durée. Là, je fais immédiatement une remarque. Il faut maintenir l'idée que les objets sont artificiellement découpés. Et le cadrage est vraiment, il semble, l'opération la plus artificielle du cinéma. Mais qu'est-ce qui définit un bon et un mauvais cadrage? Il faudrait distinguer, il faudrait peut-être poser un principe sacré en cinéma, un principe justifié. C'est très mal. Un principe sacré. Vous pouvez avoir des cadrages plus insolites et même esthétiquement merveilleux. Et ce sera rien que de l'esthétisme, c'est-à-dire rien du tout. Sans quoi. Cadrer, c'est toujours constituer un certain nombre d'objets en un ensemble artificiellement clos. Ça vaut rien, c'est-à-dire que de l'esthétisme, si ce système fermé reste fermé. À ce moment-là, c'est ça. Je me dis, vous pouvez avoir dans beaucoup de films surréalistes. Bon, le caractère insolite du cadrage, c'est strictement néant. Vous retenez les objets les plus, au besoin les plus hétéroclites, vous les mettez dans un système clos. Seulement voilà, le système est fermé, il ne s'ouvre sur aucune durée. Donc, la condition du cadrage, c'est d'instaurer un système clos, mais de faire en sorte que ce système clos s'ouvre d'un côté ou de l'autre, s'ouvre sur quelque chose qui va fonctionner comme totalité, une fois dit que c'est jamais l'ensemble des objets qui définissent la totalité. C'est-à-dire, à ce côté ouvert, il y aura une opération du temps mort sur le livre. Sinon, le temps glissera là-dessus. Si vous auriez quelque chose que vous diriez poétique, je ne sais même pas poétique. Alors, je prends des exemples de cadrages célèbres, là, juste pour orienter, chacun de vous a mille autres exemples. Loulou de Pastre. Les grandes images de la fin. Jacques l'éventreur, dont le visage est dans certaines positions, parfois en gros plan, et le sourire étonnant de Jacques l'éventreur, comme s'il était délivré du souffle, devant Loulou qui est tellement belle. Le visage de Loulou, c'est vraiment brillant, après de vous voyez. Et puis, le coupon. Y compris qui donnera objet à un gros plan ou à des gros plans. Le couteau à part. Voilà, je dis, vous avez les deux visages, le couteau, la lampe qui éclaire le couteau. Voilà un cadrage. Vous avez déterminé les objets du plan. Il est évident qu'un tel cadrage constitue un système clos, mais ne fonctionne que dans la mesure où il s'ouvre de manière à ce que le temps réel monte sur le système, c'est-à-dire que l'on part d'un premier état du tout, la conscience de Loulou, le sourire de Jacques l'éventreur, par l'intermédiaire du couteau, on part du changement dans le tout. Le visage de l'éventreur se ferme. Il ne peut plus s'empêcher de fixer le couteau, il va assassiner Loulou à la fin d'un processus de décomposition. Des compositions de Loulou elle-même. Voilà. Ouais. Autre exemple de système artificiellement clos et qui va déterminer l'image qui est là. Le rôle des traits, reprenons le verre d'eau sucré, l'eau chaude. Le rôle des verres dans le cadre, je dis ça, c'est pas que le verre soit plus important qu'autre chose, mais comme c'est un bon système clos, la fameuse utilisation des verres, notamment par Hitchcock. En deux grands cas, la fameuse séquence, la fameuse image où quelque chose est vu à travers le verre de lait, que le niveau du lait monte jusqu'à envahir tout l'écran. C'est une belle image, c'est ce qu'on appelle une belle image de cinéma. Ou bien le fameux verre dans Soupçon. C'est de Hitchcock, hein. Vous voyez, pour une fois, c'est ça. Et là, le fameux verre, la supposée être empoisonnée. Là, vous avez bien un système clos, voilà. Il monte l'escalier, il apporte le verre à sa femme, le visage de la femme, et puis, le verre, le gros plan du verre. Voilà une sens, dans quel sens j'essaierai de commenter les opérations de cadrage comme détermination d'un système clos, mais à une condition. C'est que le système artificiellement clos doit, dans la même image, être artificiellement clos et cesser de l'être. Et cesser de l'être en tant qu'il est rapporté par le mouvement de l'image, en tant qu'il est rapporté par le mouvement à une durée, c'est-à-dire à un tout sens. Deuxième ordre de remarque. Évidemment, lorsque, au second niveau, j'ai défini le plan comme détermination d'un mouvement relatif, complexe, entre les objets, ça faisait appel à toutes sortes, presque à une histoire du cinéma sur laquelle je pense. Parce qu'il est très certain que la notion, je rappelle vite pour mémoire, pour qu'on me passera des, ou qu'on posera des questions sur ce point, que lorsque le cinéma a commencé par une caméra fixe, le plan ne pouvait être compris d'une manière spatiale. Je veux dire que c'est ou bien plan d'ensemble lointain, ou bien plan rapproché, même gros plan, ou bien plan du milieu, Et pour que la caméra bouge, il fallait changer de plan. C'est les conditions du tout début. Le cinématoma passe au féminicier, entre autres, à partir du moment où la caméra devient mobile, c'est-à-dire où un même plan au sens nouveau peut réunir plusieurs plans au sens ancien. Je dirais plus simplement à partir du moment où le plan devient une réalité temporelle et non plus spatiale. Au moment où le plan cesse d'être une découpe spatiale pour devenir un processus temporel. À ce moment-là, le plan peut se définir, y compris quand il est immobile, le plan peut se définir par le mouvement complet, c'est-à-dire soit le mouvement opéré par les choses et les êtres, et pas par la caméra, soit par le mouvement empêché, qui relie les êtres et les objets cadrés entre eux. Si bien que le plan désigne à ce moment-là très souvent l'opération par laquelle le mouvement rapporte les objets à un tout. Bon, donc je parle bien du plan au sens d'une réalité cinématographique temporelle et non pas d'une coupe spatiale. Et alors qu'est-ce qui permet, si je dis, alors un plan c'est une image mouvement. Qu'est-ce qui permet de finir à tel moment ou de commencer à tel moment? Qu'est-ce qui fait l'unité du mouvement? À ce niveau, on n'a aucun problème, si vous m'avez compris. L'unité du mouvement, elle est très suffisamment déterminée par ceci. Un mouvement ne, ou plutôt des mouvements complexes, ne font qu'un, dans la mesure, exclusivement dans la mesure, où ils rapportent les objets entre lesquels ils s'établissent à un changement dans le tout. Donc le mouvement a un ou du cycle, suivant s'il rapporte ou non les objets cadrés au changement dans le tout. Si bien que finalement ce serait peut-être très intéressant d'essayer de définir le plan en ce sens, au sens de réalité mouvante, au sens de réalité dynamique, et plus beau que spatial, mais définir par la manière dont il finit. Je pense à ceci parce que c'est compliqué. Là, je vais très vite parce que je ne me souviens pas assez des textes là. C'est des textes partis par là, mais je sais à quel point la littérature cinématographique est, pour le moment, encore en mauvais état, c'est tout. Les meilleures choses, c'est parfois des articles qui sont pas réunis, etc. C'est gênant. Mais dans l'ensemble des théories du cinéma, j'ai vu par là des choses qui me paraissaient très des textes de Alexandre Astier, d'une part, qui me semble être un des meilleurs écrivains sur le cinéma d'histoire, des textes d'Alexandre Astier, c'est des textes de Rivette, où au passage d'un contenu du film, c'est donc pas du tout des jours de réflexion sur le cinéma, c'est en passant comme ça, en rendant compte d'un film, il s'interroge sur la manière dont chez tel ou tel auteur finit un plan. Si vous voulez, en effet, de mon point de vue, c'est très bien. Définir le plan par la manière dont ça finit et pas dont ça commence, ça revient au même, finalement. Et c'est meilleur, pourquoi? Si c'est vrai que l'unité du plan, elle est temporelle. Et si c'est vrai ce qui fait qu'un mouvement est un, c'est-à-dire fait un plan, c'est sa puissance de rapporter les objets cadrés à un changement dans le tout, c'est évidemment la manière dont le plan finit qui est déterminant. Or, je me souviens là très confusément de l'astuce disant, mais alors très vite, ce serait presque pour la prochaine fois si vous y pensez, vous trouvez des choses. Il parle des plans de Murnau. Il dit, c'est curieux Murnau, les plans ça finit toujours comme par une espèce de meurtre. Il ne parle pas d'un meurtre qui s'effectuerait sur une marge. Le plan va à la mort, mais à une mort violente. Ah bon, tiens. Je vois même pas ce qu'il veut dire, mais, et je sais même pas bien si ça dit que c'est quelque chose d'autre, c'est compliqué, j'ai plus de texte. Bon. Vous voyez, mais enfin, supposons qu'on puisse dire ça. Et puis, beaucoup d'auteurs, Bazin, par exemple, Bazin, il parlait de la manière dont les plans de Rossellini se combinent. C'est génial ce que Rossellini a amené au cinéma. Et il essayait de lire la signature Rossellini comme un plan se termine. Et cette fois dans une espèce non pas de mort violente, il n'y a pas une mort violente du plan, il y a une espèce d'extraordinaire sobriété de la sobriété de Rossellini, où le plan est réduit vraiment à, finalement au mouvement le plus dur. Toujours chercher, ça c'est la formule de Rossellini, toujours chercher le mouvement le plus simple et le plus pur. Entre deux mouvements, choisir le plus simple et le plus pur. Et amener le plan jusqu'à une espèce d'extinction naturelle. Le plan lui-même est comme, c'est lui-même épuisé, il n'a plus rien à dire. Alors on passe à l'autre plan. Là, ce serait comme une espèce de mort naturelle du plan rossellinien. Je crois que les mots sont très mauvais. Et puis, je crois que c'est Rivette qui lit, est amené aussi, il me semble qu'il n'y a pas du tout concertation entre eux trois, entre ces trois critiques de cinéma. Rivette, lui, il parlait de la fin, de la manière dont finissent les plans Mizoguchi. Alors, il disait, c'est très bon, ça se fait. C'est un des cinéastes qui fait le maniement de la mobilité de caméra la plus complexe. Il a des mouvements extrêmement complexes. Alors, et ça se termine là comme par une espèce de, j'ose à peine dire, parce que ça devient trop facile, la mort violente du plan chez Murnau, la mort naturelle et l'extinction chez Rossellini, par une espèce de suicide du plan mythologicien, une espèce de harakiris, noblesse oblige, alors, bon, vous voyez. Alors, je dis pas ça du tout, là, c'est pas du tout au point, ce que je dis, c'est des souvenirs très confus. C'est pour dire que la question, comment un homme de cinéma termine ses plans, peut être déterminante pour comprendre cette fonction des plans en tant que réalité dynamique. C'est-à-dire le plan comme temps et non plus la coupe spatiale. Bon, qu'est-ce que... Enfin, dernier remarque, je vais dire cette histoire de tout. Le plan, bon, il est censé exprimer un changement dans le tout. Bien. Sous-entendu, le plan avec d'autres plans. Non, déjà par lui-même. Mais en ce sens, il fait signe à d'autres plans. Puisque, si le tout est changement, il ne cessera pas de changer. Donc, un plan n'épuisera pas le changement dans le tout. C'est donc le plan avec d'autres plans, d'où le thème du montage, qui va exprimer le tout. On tombe sur un dernier problème, là, que j'estime à peine, parce qu'il faudra, on n'a pas encore même les moyens de le trouver. C'est que ce tout, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'enfin, où est-il? En quoi il consiste? C'est un client, ce tout. Je veux dire, ça a été beaucoup fait, le discours sur le peu de réalité du cinéma. La réalité du cinéma. Comme remarque tout le monde, dans le cinéma, c'est bizarre que les gens y croient tellement alors qu'il n'y a pas de présence. L'absence de toute présence, les objets cadrés ne sont pas là. Bien plus, ça, qu'est-ce qui est gênant dans le cinéma, c'est pas qu'ils ne soient pas là, mais c'est qu'ils n'ont jamais été là. Si c'était simplement qu'ils ne sont plus là, ils n'ont jamais été là. Il n'y a pas tout au cinéma. Ou du moins le tout, quoi. Il existe que dans l'œil du spectateur, ou dans la tête du spectateur, pourquoi? Vous n'avez même pas, comme au théâtre, les éléments coexistants d'une scène. Parce que le décor, vous pouvez toujours le mettre après. Vous pouvez toujours le rajouter. Bien plus, vous pouvez en peindre, il y a eu un moment dans l'histoire du cinéma, vous pouvez en peindre sur le verre de la caméra du décor. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À aucun moment, un sou n'est donné ni donnable. Je dirais que ça convient si c'est de l'ordre du tampon, mais d'accord. Et c'est peut-être propre au cinéma. Il n'est absolument pas donné, ce sou. Donc il est pourtant question au cinéma. Il n'est pas là. On a un sort de cinéma. Ils l'ont tous dit, Poudovsky le disait très bien, qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma? Il y a des bouts de pellicule, un point c'est tout, des bouts de pellicule. Avec quoi je peux faire ce que je veux, je peux toujours en couper une, la mettre là, bon, mais ça n'a jamais existé, ça n'a pas d'existence, si ça, c'est ce peu de réalité. il faudra bien que ça nous occupe par différence avec les autres arts. Et c'est pour ça qu'il y a une opération fondamentale, et que, jusqu'à maintenant, au point où nous en sommes, le tout n'est pas saisissable ni définissable indépendamment d'une opération dite de montage. Si bien que ce qui nous importerait dans une série d'exemples, pour en finir avec tout ça, c'est voir de quelle manière ces plans sont supposés susciter, évoquer, déterminer le tout qui n'est pas donné. Comment par l'opération du montage des plans définis précisément par la détermination du mouvement au sens où je l'ai dit, eh bien, de quelle manière est-ce que elle suscite ce tout qui n'existe pas? Voilà, alors, là aussi, il n'y a peut-être pas de réponse univoque. Et je ne veux pas dire là que ce n'est pas du tout une théorie du montage qu'il faudrait faire. Vous voyez, mon problème est beaucoup plus précis. Le montage, on sera amené à en reparler plus tard. Mais c'est tout à fait autre chose, c'est un aspect très particulier du problème que je prends. Par quelles opérations et comment les plans, dès le moment où ils sont montés, suscitent-ils un tout qui n'existe pas? Qui n'existe nulle part. Qui n'existe même pas sur la pellicule. Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs réponses. Alors là, on... Si vous voulez, il me semble, réponse, je dirais, il y a une conception qu'on pourrait appeler, ça encore une fois que ça concerne le problème du montage en général, une conception qu'on pourrait appeler dialectique. Conception dialectique du montage, je dis là les choses les plus simples qui soient, c'est que les plans, chaque plan, et les plans les uns par rapport aux autres, doivent jouer au maximum de mouvements opposables ou opposés. Chez Goldstein, vous trouvez ça, mais chez beaucoup de Russes, vous trouvez ça. Une conception vraiment dialectique du montage. Et c'est par le jeu des oppositions de mouvements que le tout est suscité. C'est que le changement en affection du tout est présent. D'où l'idée d'une dialectique du montage. Il y a une autre conception, je me dis, est-ce que ça n'a pas été cette originalité du cinéma français? Une conception, cette fois-ci, très différente du montage, je dirais que c'est presque du point de vue qui nous occupe. Vous voyez que je prends le problème du montage, non pas du tout pour lui-même, mais uniquement au niveau rapport mouvement. C'est uniquement sous cet aspect pour le moment qui m'intéresse. Je dis une première réponse, supposons une réponse russe, ça a été qu'en opposant les mouvements, alors chaque plan est dans les plans et d'un plan à l'autre, que le tout est suscité, que le tout est évoqué. Dans une conception française, je dis aussi bien Gans, Lherbier, mais même Grémillon, plus tardivement, a une conception très intéressante, qui a été quand même un grand moment du cinéma, qui était une conception quantitative. C'est plus une conception dialectique du mouvement qui va évoquer le tout, c'est une conception quantitative du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble que tous les Français, à cette époque, enfin, quand ils sont grands, ont une espèce de projet. Le projet, et quand je l'exprime, ça fait très arbitraire, c'est comment mettre un maximum de quantité de mouvement dans un plan. Quitte à presque frôler l'abstraction. Quitte à frôler l'abstraction. Et quitte à faire quoi? À entraîner une précipitation du plan. Car plus vous avez de quantité de mouvement dans un plan, plus le plan semblera court. Et ça donne des choses qui sont quand même merveilles, de danse à l'herbier, à Grémillon, etc. Ça donne une espèce de grande épreuve de style, à savoir la farandole, la danse, extrêmes aussi, tous, quoi. Ça, c'est vraiment une somme, une espèce de problème. Il y a tout comme il y a des caractères nationaux dans les films, dans la philosophie, il y a des caractères nationaux dans le cinéma. En fait, je crois qu'avec une famille, ça, c'est tous. La parabole, la guinguette, la farandole en milieu fermé. J'ai vu récemment un film muet de Grémillon, Mal d'homme, qui a une farandole dans un espace clos. Dans la farandole en espace clos, ça c'est grand. Alors même des sites comme Chiamat, il suffisait qu'ils arrivent en France pour qu'ils trouvent des thèmes. Et qu'ils s'y mettent tous. Ça c'est ça, ça peut être ça. Là, moi, je dirais, je préférais, oui, la formule dure. Maximum de quantité de mouvement dans un espace clos, c'est-à-dire dans un espace abrégé. Et dans le chef d'œuvre de danse a toujours été une espèce de précipitation du mouvement, c'est-à-dire partir d'un espace qui va être pris dans un mouvement qui ne cesse pas de s'accroître du point de vue même quantitatif. Eschen, la fête foraine, la célèbre fête foraine de Eschen, qui absolument la synthèse. Je dirais cette fois-ci que c'est en prenant le mouvement, non pas du point de vue de ses oppositions dynamiques, mais en prenant le mouvement du point de vue de la quantité de mouvement, que le montage opère, c'est-à-dire suscite l'idée du tout. Puisque ce tout est purement idéal. Et puis, il y aurait une dernière question, c'est vraiment un peu facile ce que je fais là, mais c'est comme ça, hein. C'est pour finir, c'est le cinéma allemand. Le cinéma allemand, avec tout ce qui a eu tellement d'influence, parce que voilà, il y a quelque chose de curieux. Et là, c'est un problème dont il faut répondre, même vis-à-vis de Bergson, supposé que Bergson soit là, c'est un problème gênant, c'est pourquoi tant de gens, dès qu'on leur parle de durée, pensent immédiatement à un processus de décomposition. C'est curieux, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de pessimisme de la durée? La durée décompose. La durée, c'est une défection. La durée, c'est tomber en poussière. C'est curieux, pour Bergson, c'était pas ça du tout. Au contraire, la durée, c'était l'émergence du nouveau. C'était le surgissement du nouveau. Mais le fait est, quand on parle de durée, on a l'impression d'un processus de décomposition. Toute vie, bien entendu, est un processus de décomposition, signé Cicéra. C'est la formule ordinaire de la durée. Ah, si c'est un processus de décomposition, ça dure. Ouais. Ouais. Qui est-ce qui a introduit la durée dans le roman, avant qu'il y ait le cinéma? Si j'ai introduit la durée dans le roman à l'état pur, c'est Flaubert. C'est Flaubert. Et notamment dans Madame Bovary. Et sûrement ce qu'on appelle le réalisme ou le naturalisme est strictement indissociable de l'entreprise, de la durée. Or, comment se fait-il que cette durée est un processus de décomposition? Si ça dure, ça se décompose. Ça, c'est pas du tout Bergson. Or, qui est-ce qui est considéré partout dans toutes les histoires du cinéma comme le Flaubert du cinéma, c'est-à-dire le grand naturaliste, le génie qui a apporté la durée dans le cinéma? Il a connu ses choix. C'est Ström avec les rapaces. Ou en effet, comme on dit, c'est la première fois qu'il n'y a pas un seul mouvement ou une seule immobilité qui soit rapportée à la durée des personnages. Bon, ça a été un coup de génie. C'est pas que les autres n'avaient pas déjà conscience de la durée, mais là vraiment la durée comme conscience psychologique fait son entrée. Bien, comment se fait-il que les rapaces soient précisément l'étude la plus magistrale d'un processus de décomposition, d'un double processus de décomposition? Je veux dire, cette fois-ci, c'est le mouvement de décomposition, ou si vous préférez, c'est la chute, qui est chargée. La l'interpellation par laquelle les mouvements peuvent évoquer l'idée d'un tout. Les mouvements ne peuvent évoquer l'idée d'un tout, dirait-on, que dans la mesure où ils sont mouvements d'une décomposition, où ils accompagnent une décomposition, où ils sont les mouvements d'une chute. Bon, c'est pas du tout forcé, ça. Je dirais ça que c'est un montage, alors non plus ni dialectique, à la russe, ni quantitatif à la française, au sens où j'ai essayé de le dire, mais un montage intensif. Donc là, il y a une équivoque, mais partout, il y a des efforts. Un montage intensif. Oui, c'est trop compliqué, alors vous voyez, on en est par là. La prochaine fois, je voudrais ceci. Bien sûr, j'explique ce que je voulais dire là, mais très vite. Je voudrais que vous réfléchissiez à tout ça. Que vous parliez. Que vous voyez, vous, si vous vous en êtes par rapport à ça. Et puis, alors, je terminerai en résumant les thèses de Bergson, et on aura fini un premier. Et puis, en terminant là où j'en suis, et on aura fini un premier groupe de recherche. On passera à un autre groupe, là.